Tout pour investir, le journal de votre argent.
Le directeur de la rédaction du magazine Investir est avec nous. Bonjour, cher François.
Bonjour, Lorraine.
Évidemment, avec vous, on fait le bilan ce vendredi matin de près de 50% des entreprises de notre CAC 40 qui ont publié. Que retenez-vous? Racontez-nous.
Oui, on a déjà maintenant une bonne visibilité sur l'état de santé de nos entreprises, que ce soit cette semaine avec un peu plus de la moitié qui ont publié, 21 exactement, et on avait déjà eu quelques publications au cours des semaines précédentes. Là, ce qui ressort, bien sûr, c'est qu'on est extrêmement rassuré, même s'il y a un petit peu moins de croissance, les sociétés sont capables toujours d'afficher une activité solide, elles sont capables de défendre les marges, et ça se mesure finalement avec des indices qui restent quand même à des niveaux assez élevés, puisque le CAC 40 reste au-dessus du fameux seuil symbolique des 8000 points. Donc très bonne résistance, des prévisions qui sont également là aussi rassurantes, ce qui fait dire que le deuxième trimestre pourrait être là aussi de bon augure. Donc encore une fois, les entreprises parviennent à surprendre agréablement la communauté financière, les analystes, les gérants. Donc ça, c'est la note positive. Après, là, ce qu'on voit, et c'est ce qu'on a pu voir depuis deux ou trois trimestres, c'est que maintenant, il y a clairement des vraies fractures au sein de chaque secteur, au sein de chaque thématique. On l'a vu dans le luxe, entre un Kering qui s'écroule et un LVMH qui continue de progresser. On le voit aussi dans le domaine de la santé. Eurofins Scientifique, Sartorius Tedim, ne sont toujours pas remis finalement du Covid. Et on a une petite remontée de Sanofi. On le voit aussi dans le domaine de la tech. Si Meta souffre, on voit que Microsoft rassure et on voit qu'il y a l'appétit en tout cas pour des actions Alphabet. Donc on voit vraiment que dans chaque secteur, que ça soit en France, en Europe, aux États-Unis, vraiment il y a un vrai tri et on joue pas maintenant une thématique, on joue pas un secteur, on joue vraiment la bonne valeur. C'est vraiment une stratégie de ce qu'on appelle de stock picking dans le jargon des gérants, et on le voit même au sein des thématiques. Dans les thématiques liées, on va dire en valeur value pas chère, défensive, finalement on a des investisseurs qui vont plutôt sur la banque et qui vendent des télécoms. On a vu qu'Orange a subi des prises de bénéfices. Donc on voit que vraiment à tout niveau, on essaie de faire le tri, et c'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'aujourd'hui on peut pas se dire on a une conviction sur un secteur, il faut vraiment y aller valeur par valeur.
En stock picking, on va continuer à faire le bilan de cette semaine de publication. On reviendra sur Kering dans quelques minutes avec Mounir Laghoun. Mais avant ça, un petit mot de Bitcoin. Parce que depuis la halving, là, on n'en parle plus du tout. Ça fait une semaine.
Oui, on n'en parle plus parce que finalement, on a pas mal d'épargnants ou d'investisseurs. Je ne sais pas comment on peut les appeler. En tout cas, il y a quand même un Français sur huit qui a du Bitcoin ou de la crypto-monnaie. Et ces épargnants sont un petit peu déçus parce que tout le monde se disait avec le halving, donc le fait qu'on allait produire deux fois moins de Bitcoin, on allait avoir une envolée des cours. Sauf que l'envolée des cours, on l'a eu un petit peu, et il faut voir un petit peu quels sont les catalyseurs aujourd'hui sur la crypto-monnaie et sur le Bitcoin. Tous les voyants sont au vert, sauf un. Les voyants qui sont au vert, c'est que la crypto-monnaie et le Bitcoin arrive à créer de la valeur lorsqu'il y a une défiance sur le système.
Oui.
La défiance est toujours là, on voit les endettements, on voit la dette publique en France, 3100 milliards, on se dit, oui, il y a quand même un souci. Donc ça, c'est un terreau extrêmement favorable au Bitcoin. Autre terreau qui est favorable, le fait qu'on puisse en acheter plus facilement. Depuis l'arrivée des ETF aux États-Unis et bientôt à Londres, il est plus facile de se procurer de la crypto-monnaie sans se créer un wallet, un portefeuille digital. Ça, c'est et puis maintenant, le système crée de la rareté, puisque le Bitcoin, comme vous le savez, à intervalles réguliers, réduit sa production de monnaie numérique par deux. C'était le cas le 21 avril. Et là, on se dit, ça monte. Pourquoi ça monte pas? Ça monte pas parce que la donne, c'est le dernier voyant, il est pas du tout au vert, il est peut-être à l'orange, il va peut-être passer au rouge. C'est le fait que il y a pas de baisse des taux attendue de la Banque centrale américaine en juin. Et il y a une vraie corrélation entre les taux d'intérêt, notamment aux États-Unis, et les cours du Bitcoin. Quand les taux d'intérêt ont eu tendance à monter, quand la Banque centrale a durci sa politique monétaire, on a vu qu'il y avait une pression baissière sur le Bitcoin.
Oui.
Et tout le monde s'est dit, maintenant on rentre dans une nouvelle stratégie de politique monétaire avec des baisses de taux attendues. Tout de suite, ça a donné une bouffée d'oxygène depuis cet automne sur le Bitcoin. Et là, on se dit finalement, l'inflation, elle est toujours là. Elle montre vraiment des signes de résistance. Et le combat, il risque de durer un peu plus longtemps. Et donc, résultat, les cours du Bitcoin sont en mode pause. Et tout le monde attend la baisse des taux de la Fed.
Voilà, quel avenir si la Fed ne baisse pas ses taux? En tout cas, à l'heure où on se parle, 10h15 ce matin, le Bitcoin se négocie autour de 64 389 $. dollars. Le Bitcoin et les publications, nous allons en reparler dans quelques minutes avec Mounir Laghoun de Finari et puis Antoine Larigauderie depuis Euronext. Merci François.